Pour cela, nous sommes vos ennemis. Nous sommes contre vos idées, contre vos pensées, vos obscénités, votre chrétienté, votre violence. Nous refusons toute idée d'une vie qui serait fatalement réduite au minimum vital.
Je n'en dirai pas, on a tous les frères qui n'arrivent même pas pour partir à la guerre. Je ne m'en ferai pas, mais qu'est-ce qu'il dit ? Je serai pas seul d'être communiste toute la vie. Je ne m'en ferai pas.
Un mot trop, et c'est un mot tout dans l'orange.
Les flics tabassent, sortent le P38 et le flic du flingue de glace.
Les flics, la police et le vice.
Et par des keufs se font planer, c'est connu, dans le Parisien t'as que des histoires comme as.
La route du guette, mec, les flics aussi.
Soit du rouge, aussi rouge que vos bavures.
J'ai mal au cœur quand ta frère meurt. Pour eux, un accident de travail, à t'en faire peur de sortir sans pare-voix.
Moi seul et
salut à tous et à toutes, vous êtes donc sur le numéro 0, l'information d'info sur l'actualité des luttes, une semaine sur deux sur Radio Dio, le jeudi midi, rediffusé le jeudi à 5h. Alors aujourd'hui, émission un petit peu de branquignol, parce qu'on n'avait pas trop le temps de préparer, du coup on a décidé de faire une émission sur d'autres émissions de radio, et plus particulièrement sur des émissions de radio que vous n'avez pas l'occasion d'écouter, puisque votre poste ne les capte pas. Vous pouvez juste les écouter sur Internet. Ces émissions qu'on a choisies, on les a choisies parce qu'elles avaient des contenus intéressants, parce que c'était des amis aussi, et parce qu'elles étaient dans des démarches assez proches de ce qu'on pouvait faire au niveau du numéro zéro. Du coup, aujourd'hui, on va présenter trois émissions. Trois types d'émissions. La première, c'est le complot des cagoles, c'est une émission marseillaise. La deuxième, c'est basse intensité, une émission marseillaise aussi. Et la troisième, c'est le club radio, qui est une émission. Enfin, c'est pas tout à fait une émission, c'est plutôt un machin truc internet. Enfin, on vous en dira plus, qui sont basés sur Dijon. Voili voilou, bonne écoute et.
Alors, première émission de cet après-midi, le complot des cagoles qui passe sur Radio Galère 88.5 à Marseille. Le complot des cagoles, pour le dire vite fait, c'est une émission qui est animée par un collectif non mixte, donc avec que des filles, qui a pour ambition de présenter un point de vue féministe sur la société à travers des reportages, des interviews, tout un tas de sujets. Et le sujet qu'on va présenter aujourd'hui parle de la grève au Carrefour de Marseille. Souvenez-vous, c'était il y a à peu près un an, le 1er février 2008, les syndicats avaient décrété une journée de grève dans la grande distribution pour la question des salaires, des conditions de travail et aussi sur la question du travail du dimanche pour le refuser. À Marseille, ça a été un peu particulier parce qu'au carrefour du Grand Littoral, les salariés et principalement en fait les caissières et les personnels qui font la mise en rayon ont décidé de ne pas se contenter de 24 heures de grève et en AG ont décidé de faire une grève illimitée jusqu'à obtention de tout leur de leurs revendications, en contre l'avis des syndicats qui ont dû suivre et qui finalement, vous le verrez, ont un rôle pas très glorieux. Donc ça a été une grève assez dure parce qu'elle a concerné la majorité des caissières, des personnels de mise en rayon. Il y a eu des blocages, un piquet de grève, elle a duré 15 jours. Voilà. Et un mois après, donc, les camarades du complot des cagoles sont allés les voir et ont fait ce reportage qu'on va écouter.
Carrefour Grand Littoral, jeudi 27 mars, il est midi. On a rendez-vous avec des travailleuses de l'enseigne, de celles qui ont participé à la lutte de 16 jours qui s'est déroulée début février. Une lutte inédite et fort médiatisée. Alors plus d'un mois après, que reste-t-il à dire? Assurément, la rencontre aurait été différente un mois auparavant, autour d'un brasero. Maintenant, la routine a repris et on a un peu de mal à trouver un endroit où discuter. L'espace marchand a repris tous ses droits et rappelle qu'on n'est pas là pour bavarder, mais pour consommer ou travailler.
Vos coffres vous rapportent de l'argent. Carrefour.
La qualité pour tous.
La rencontre se fait, faute de mieux, dans un couloir, entre deux portes battantes, entre deux tranches de travail. Le temps presse un peu.
Comme pour les temps de pause, on a 3 minutes par heure. Ça veut dire qu'on fait 7 heures, on a 21 minutes. Et avant d'aller acheter à manger, on est obligé de pointer. Donc le temps qu'on pointe, qu'on arrive à la sandwicherie pour acheter à manger, on a perdu déjà 10 minutes. Le temps qu'on arrive en salle de pause, parce qu'on nous a changé de salle de pause, on est en haut, la pause elle est finie.
Pour cette pause déjeuner, Carrefour leur accorde gracieusement un ticket restaurant de 3 euros. À peine de quoi s'acheter un sandwich. Une des revendications de la grève, c'était justement l'augmentation de ces tickets restaurants, symbole du mépris patronal et de leurs conditions de travail.
Alors qu'est-ce que j'ai à dire sur tout ce qui s'est passé par rapport à notre grève? Alors ça s'est déclenché bien avant, je pense. C'est un état d'esprit qu'on a actuellement dans le magasin. On a un gros problème d'argent. On travaille et on est considéré comme des emplois précaires. Donc déjà à la base, on a des horaires un peu certains difficiles. Il y en a qui commencent à 3 heures du matin. Il y en a qui commencent à 4 heures, à 5 heures. Après, il y a des gens comme les caissières qui ont des coupures d'une heure pour reprendre le travail après la journée, donc tout ce qui pose comme problème pour garder les enfants. Bon, moi, je suis employée de rayon. Je ne commence pas à 3 heures du matin. J'ai un avantage sur les autres, c'est que je suis en parental, c'est-à-dire que j'ai eu droit à des horaires modifiés par rapport à mon statut. Sinon, j'étais d'après-midi, donc j'avais des fermetures à 10 heures. Donc, incapacité de voir mes enfants, puisque le matin, ils sont à l'école ou en garde. Donc, je le voyais que le lendemain, matin, dans les meilleurs des cas. Alors cette grève a commencé un jour parce que c'était du national, c'était une revendication et puis le dégoût des employés pour tout ce qui se greffe au niveau argent et conditions de travail a fait que ça a duré 16 jours. Donc 16 jours, j'ai la chance d'avoir un mari qui est opérationnel, donc 16 jours c'est lui qui s'est occupé des enfants, tout ce qui est rentrée de classe, pour manger à la cantine, pour aller chercher les enfants. Et puis moi, j'étais vraiment en stand-by pendant 16 jours. Donc, faire les jours, les nuits dans le magasin, quoi, dans le magasin, dans le parking, pour empêcher les camions de rentrer, pour être au courant de ce qui se passait.
Le parking des livraisons, cet espace qu'elles ont tenu pendant 16 jours, c'était le lieu de lutte. La grève a été en majorité une lutte de femmes.
Vous dites que les femmes seraient peut-être plus révoltées.
Bah oui, parce que je pense que c'est... Alors, il ne faut pas croire, mais on est beaucoup de femmes seules ici, hein. Et ouais, donc quand vous gagnez 950 euros par mois, et que vous, comme mon cas, que je vous sortais 450 euros de loyer, je parle que du loyer, je ne parle pas de l'EDF, bon, je ne suis pas imposable, évidemment, avec les salaires misères que j'ai, on risque pas de... Quand vous payez votre loyer, quand vous payez l'électricité, vous payez l'assurance voiture, parce que quand vous finissez ça à 10 heures, il n'y a plus de bus, hein, il vous faut une voiture minimum, qu'est-ce qu'il vous reste pour manger? Rien.
Ce genre d'emploi précaire, associant temps partiel imposé et bas salaire, est quasiment réservé aux femmes. C'est une réalité statistique.
82% des temps partiels sont des femmes. Une femme sur trois travaille à temps partiel contre un homme sur 20. Aucune forme d'emploi n'est à ce point sexuée. Souvent présentée comme une fleur faite aux femmes pour qu'elles puissent s'occuper de leurs gamins, c'est en fait un outil de flexibilité pour le patronat.
Ben moi, j'ai une base de contrat de 30 heures. Si je fais dans la semaine 37 heures, les 7 heures qu'il y a, ils vont dans mon compteur. Donc si par exemple un jour je suis fatiguée et que j'ai envie de partir, ben, ils les récupèrent dans mon compteur pour pas me les payer.
Dans un couple, Ça fait un salaire d'appoint pour joindre les deux bouts.
Qui est-ce qui me ramène un salaire? C'est mon mari. Donc c'est lui qui privilégie son travail. Donc c'est à moi de privilégier les enfants, parce que mon salaire, eh ben, c'est le plus bas de la famille. Donc je suis obligée, moi, de faire des sacrifices. Ça aurait été mon mari qui avait le salaire le plus bas, ben, ça serait lui qui ferait les sacrifices.
Le parking, c'est maintenant le lieu de la pause clope. On y rencontre un groupe de jeunes caissières qui nous racontent les joies de la grève.
Et en fait, vous étiez là jour et nuit.
Ouais. Oui, nous, oui, c'est vrai.
Nous, on fait partie des filles qui
nous,
sont
dormies matin, midi et soir, qu'on était là tout, pendant 16 jours, qu'on était là toute la nuit, toute la journée. On a combattu le CRS, on était là et on est rentré pour rien. Voilà. Le directeur, vu qu'on ne laissait pas rentrer les marchandises, sa seule solution, c'est de nous envoyer les CRS. Donc il faut savoir que les CRS ont quand même frappé une femme enceinte. Elle a été hospitalisée. Malheureusement, elle a repris le travail parce qu'il faut bien travailler, il faut bien gagner sa vie, voilà.
On a été traité d'injustice aussi, deux fois, parce qu'on a bloqué l'accès de la galerie. Oui, non, les livraisons, on a bloqué tous les jours, on a bloqué 16 jours. Mais les accès, 16 jours. 16 jours d'accès, ouais. La nuit, on reste là pour bloquer les camions, en fait. Voilà, on allait là, dès qu'il y a un camion qui arrivait, on disait, on fait la grève, repartez. Mais les accès, nous avons bloqué deux fois, et les deux fois, on a été traité d'injustice. Voilà.
Mais là, pendant les piquets de grève, etc., vous faisiez comment pour prendre des décisions, par exemple, d'un jour sur l'autre
Tous les soirs, il y avait une assemblée générale, en fait. On demandait qui voulait continuer, qui voulait rentrer. Et la majorité du choix, c'était de continuer, donc on continuait le lendemain.
Et il y avait du monde à ces assemblées?
Oui, il y avait... au début de la... Enfin, je pense que la première semaine, il devait être à peu près 400 ou 500 sur 600, non? On est combien? On était 80% des employés. Et donc, au début, il y a tout le monde qui était là, donc on prenait beaucoup de décisions. Et c'est vrai qu'à la fin, il y a beaucoup de monde qui ont commencé à rentrer. Donc, il y avait moins de monde, mais...
Et je me rends pas compte, c'était plus unanime au niveau des caissières ou c'était un peu tout le monde?
Non, c'était tout le monde. Ouais,
c'est vrai que la majorité, c'est les caissières. En grève, si toutes les caissières sortent, le magasin est fermé. Parce que sans caissière, le magasin ne peut rien faire.
Il y en a qui ne sont pas sortis. Ils ont dit, nous, on est très bien payés. On n'a pas besoin de rien. Et quand le verdict est tombé, ils ont dit qu'ils allaient nous donner 80 000 euros. Ils ont dit, ben nous, on veut manger les 80 000 euros aussi. Ouais. Dit, comment, tu n'as pas voulu sortir, maintenant tu veux des sous? On dit, ah ben, ça, c'est normal, vous êtes battus, ben, maintenant on récolte les lauriers. Ah, d'accord. Non, mais ça, comme ça, eux se font bien voir auprès de la direction. Nous, on se fait mal voir, normal, hein, parce qu'on était tout en dehors en train de crier, de chanter. Et maintenant, attendant, eux, tout le monde leur fait confiance. Et nous, on discrédite tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait.
En train de crier, de chanter?
Ah oui, chanter avec le microphone. Si tu veux pas augmenter, parle à ma mère. Si tu veux pas négocier, oublie-moi un. Après, on disait, la grève, elle est trop bien. La grève, elle est trop bien. J'ai pas remarqué. Voilà, franchement, il y avait une bonne ambiance. Voilà. Ce côté ambiance, c'est vrai que...
L'ambiance, elle y était, ouais.
Il y avait...
Parce que vous étiez nombreux la nuit, bah, nombreuses.
La nuit, moi, je restais pas, mais bon, c'est vrai
la qu'on première était nuit, on était 5. Parce qu'il y a personne qui savait qu'on faisait la nuit. Donc entre nous, on s'est fait une petite grillade et tout. On a joué, on remet ça.
Entre filles ou...
On était, y avait, nous, les filles, on était un groupe de 6 filles tout le temps, tous les soirs, toutes les nuits et toutes les journées. Et il y avait 2-3 mecs à peu près. Et après, on a fait passer le mot comme quoi on était là le soir aussi. Donc tout le monde venait petit à petit. Et c'est vrai qu'après, ils venaient gens de l'extérieur. Donc on se retrouvait des fois à 50, 60 le soir. Déjà, la nuit, c'est beau. Bon, on dormait un peu dans les voitures aussi. On n'était pas réveillés toutes les nuits. Même ma chef, elle m'a dit, moi que je suis toujours en retard, elle m'a dit, je vous ai jamais vu arriver aussi à l'heure. À 5h du matin, j'étais en train de me brosser les dents. Elle m'a dit, je vous ai jamais vu arriver à l'heure. J'ai dit, ouais, mais la grève, j'étais trop place. Non, ça va.
Ben non, nous, on ne voulait pas rentrer personnellement, on ne voulait pas rentrer. On est rentré de force parce qu'ils ont signé.
C'est le délégué syndical qui a, de la CFDT qui a voulu, il est allé signer sans nous faire voter.
Voilà.
Sans voir si on était d'accord ou pas d'accord.
Vous êtes rentré de force
seul, quand même. On est rentré de force, oui, on est rentré de force. Mais il le sait de toute façon.
Il faut dire que si on aurait continué, on aurait peut-être abouti à quelque chose parce qu'il y avait des carrefours qui rentraient avec nous.
Une semaine, tu faisais un poste.
Et alors, comment il y a eu une assemblée générale après la signature et...
Non.
Le samedi, ils ont
il a fait l'assemblée générale et il a dit voilà. Et il a dit, voilà, on nous propose ça, moi je monte et je signe. Voilà, il ne nous a pas demandé notre avis.
C'est-à-dire que d'abord, il a appelé les trois quarts, enfin, les personnes qui faisaient partie de la CFDT. Là, on va demander ce qu'ils en pensaient. La majorité de la CFDT a voulu rentrer. Donc, pour lui, pour la CFDT, ils ont dit, on va rentrer, puisque les trois quarts de... Comme je sais plus comment dire, de ceux qui sont avec la CFDT ont voulu rentrer.
D'employés aussi, ils sont sans étiquette non plus. Hein, voilà.
Non, mais là, c'est vrai. Ils venaient tous avec leur banderole, un coup CGT comme ça, un coup CFDT. C'est pas une grève pour le syndicat, c'est une grève pour les employés, avec ou sans étiquette. Franchement, ça m'a énervé. Tellement j'ai dit, moi, si ça continue, je rentre chez moi, je viens pas. Pourquoi je me déplacer? Je crois, mais l'étiquette, c'est bon. Non? Comment là, tu es déguisé? La grosse banderole là, la mise, la casquette, le badge. Oui,
parce que pour savoir qu'on n'est pas assez payé, on n'a pas besoin d'étiquette.
Ouais, voilà, hein. C'est pas eux qui vont nous payer. Il y avait trop des clans, ça faisait les clans, les CGT à gauche, la CFDT à droite, franchement, voilà. Non, nous, on a récolté 20 euros, nous, on a récolté 100 euros, mais c'est bon, c'est tous ensemble. Dans une grève, il n'y a pas, c'est à la fin que tu dis ou au début. Nous, on est là, mais pendant la grève, il ne doit pas y avoir ça. Voilà. Et ça, franchement, c'est, je crois que c'est à cause de problèmes syndicaux qu'il n'y aura pas de grève comme ça encore de 16 jours. Ou...
Le 16 février, la CFDT signe un accord de fin de conflit. De dons, presque rien sur ce qui était demandé. Sur la fin des temps partiels imposés, rien. Sur la prime exceptionnelle de 250 euros, rien. Sur la fermeture à 21 heures en hiver, rien. Ce qu'il y a, c'est 80 000 euros de subventions exceptionnelles versées au comité d'entreprise et une augmentation du ticket restaurant de 50 centimes au lieu des 1,50 euros demandés. Et encore, cette augmentation est soumise à condition que les pertes liées au vol et à la casse passe sous la barre des 2%.
Pour la grève, on n'a rien eu, mais alors rien. Pour les tickets restaurants, pour l'augmentation des tickets restaurants, il faut qu'on passe à la sécurité. Il faut qu'il y ait le moins de casse et de pertes possibles dans le magasin.
Finalement, pour les patrons, le manque à gagner lié à la grève s'est élevé à 3 millions d'euros, l'équivalent de 2740 années de tickets restaurants.
N'était pas indispensable à la prospérité du capital. On ne nous les servirait pas partout, toujours, à coups de fric, à coups de flic. N'était pas le meilleur antidote contre nos grèves et nos révoltes. On ne nous la scènerait pas à tous les coups, à coups d'assemblée syndicale.
À la fin de notre combat, on va dire les derniers jours, le vendredi et le samedi, on a eu beaucoup de magasins qui sont venus nous rejoindre, qui ont débrayé, qui étaient vraiment avec nous là. Mais bon, on a lâché le morceau avant. C'est peut-être qu'ils se seraient mis en grève aussi.
Hein. Bah, c'est pas vous qui avez lâché, c'est...
Oui, c'est pas nous, mais enfin, on n'a pas le choix, on va dire. Hein. Nous, on a beaucoup eu de soutien, hein, mais de tout le monde, parce qu'on a eu des dons, on a eu... Franchement, ça a été, mais de tout, les dockers, les bateaux de pêche qui arrivaient au port, ils nous ont dit venez à telle heure, ils nous ont donné le poisson frais qu'ils avaient pêché. Ah oui, on a eu des soutiens de tout le monde. Hein, hein. Nous, c'est notre patron qu'on aimerait en avoir un peu. Voilà,
ouais,
c'est
tout. Vous voyez la suite.
La suite, je vois très mal, à moins qu'on leur foute le feu, je vois pas d'autre solution. Parce que là, on est toutes révoltées et je pense pas qu'on va en rester là. Ils ont rien cédé. Puis quand un patron vous dit dans la figure, je préfère perdre je sais pas combien de millions d'euros plutôt que de vous en donner 190 000, parce que ce qu'on réclamait, ça représentait que 190 000 euros, il faut pas beaucoup qu'il y ait de figure, hein, parce qu'il n'y a pas de problème de fin de mois, lui. Hein, ça aussi, nous l'a fait comprendre.
Je dirais la seule chose qui, à mes yeux, a changé, c'est que nous, employés, on a appris pour certains à se connaître, parce que c'est vrai que les caisses et les employés de rayon ont du mal à se rencontrer par rapport aux horaires, par rapport aux salles de pause, etc. Donc ça nous a permis de voir un petit peu les autres problèmes qui pouvaient se trouver, parce que moi, en étant employé rayon, je savais quelques problèmes de caisse, mais je ne savais pas tout. La grève, après, qu'est-ce qu'elle apporte? Je veux dire, elle ne nous a pas apporté grand-chose. Hein. Au niveau, on a pratiquement rien perdu, mais on n'a rien gagné. Tout ça se parle au niveau national. On dit que s'ils nous donnent à nous, ils sont obligés de donner à tous les autres magasins, en gros. Donc, ils ne veulent pas lâcher, quoi. Hein. Même pour 20 centimes sur un ticket resto. On ne peut même pas penser, je veux dire, à dire on va partir un mois en vacances. Un mois en vacances, c'est quand même pas la mer à boire, je veux dire. Eh bien, on n'y arrive pas. Alors, bon, ben, la grève, ça a servi à quoi? Ben, justement, à discuter de ça. Surtout, je pense qu'on a fait grève pour montrer qu'il y avait un ras-le-bol. Dans cette grève, on s'est retrouvé des gens qui sont bientôt à la retraite, des gens qui sont battus, donc ces gens-là qui sont à un an de la retraite, à 6 mois de la retraite, qui sont battus pour les autres, des étudiants qui ont participé à la grève. Or, ceux qui n'ont pas pu participer, bien sûr, c'est la loi, c'est tous les malheureux qui étaient convaincus comme nous, mais qui, eux, ils avaient des CDD et qui ne pouvaient pas se permettre d'exprimer ce qu'ils pensaient. Alors, c'est vrai qu'on est dans un pays, soi-disant, on a le droit à s'exprimer, on a le droit à la grève. Moi, j'ai constaté qu'en faisant la grève, on n'avait pas droit à grand-chose, en fait. On avait droit à se faire petit, discret, et surtout qu'on ne parle pas de vous. Moi, quand je parle, on me dit, tu sais, Christelle, tu rêves. Alors, peut-être que je rêve de demander 250 euros net sur mon salaire, c'est peut-être un rêve. Mais quand je pense que M. Sarkozy, eh bien, lui, il se permet de s'augmenter son salaire, les patrons se permettent d'augmenter leur salaire, et les ouvriers, quand c'est qu'ils peuvent augmenter leur salaire? Donc, où va tout ça? Moi, ce que j'espère de tout ça, c'est que les gens, ils vont se réveiller et qu'ils vont voir que, oui, c'est possible de se battre, c'est dur, c'est pas facile, mais oui, c'est possible de se battre pour des convictions, donc d'aller jusqu'au bout. Et que l'union fait la force, quoi. C'est un petit appel, quoi, que les gens ils se révoltent, et surtout les femmes, parce que de nos jours, les femmes, comme on dit, ben, elles ont un double travail. Elles ont le travail au travail et le travail à la maison.
Basse intensité, l'infokiosque radiophonique en direct des faubourgs de Nantimonde. Chaque dernier mercredi du mois sur Radio Galère, de 21h à 22h.
Basse intensité, 26 septembre 007, c'est la première émission sur Radio Galère 88.4. Comme la guerre systématique qu'ils mènent contre nous tous. Quand on sait qu'on peut leur rendre coup pour coup, basse intensité, nouvelles de la guerre sociale, révoltes en tout genre, tour des brochures et autres lectures subversives sur des musiques offensives. Écoute ça, basse intensité, l'État matraque et tracasse pour qu'on se taise et qu'on ne sorte pas, qu'on rentre la tête dans les épaules quand les hélicoptères planent et scannent les zones où ça crame, qu'ils y envoient l'armée, les pompiers, qu'ils nous inondent de cam et de somnifères comme la télé. En basse intensité, l'ennemi nous use, nous abuse, nous endort en nous disant que c'est mort et que tout est niqué. Et tout au contraire du désespoir, de toutes les guerres, on parlera quand des flics tabassent ou quand ils se font tabasser. On parlera pour mesurer les pertes, les peurs, les pleurs et l'ampleur des dégâts. C'est pas fini, ça ne fait que commencer. En basse intensité, on va pas se taire. Le silence est le décor des mensonges d'État, complices des crimes dans les tôles et les commissariats, où les hommes et les femmes s'entassent parce qu'un juge les a enterrés là. En basse intensité, on entend leur voix en rôdant autour des tôles, même les plus éloignés, les plus sophistiqués. Sort toujours un souffle de vie et de liberté, en basse intensité, écoute ça. Nouvelles de la guerre sociale, révoltes en tout genre, tour des brochures et autres lectures subversives, musiques offensives, tous les derniers mercredis du mois sur Radio Galère, de 21h à 22h. Basse intensité.
Thank you.
Et voilà, alors la deuxième démission de nos amis qui sont toujours aussi à Marseille, les collègues de Complot des Cagoles, basse intensité, toujours sur Radio Galère. Et, mais par contre, vous écoutez bien en ce moment Radio Dio, et il est midi 26. Et alors, le but de basse intensité, c'est de lire de façon attrayante et convaincante des brochures qui bien souvent sont trouvées sur le site infokiosque.net. Voilà, des sujets aussi variés que l'anti-industrialisme, l'anti-capitalisme, le féminisme, etc. Alors là, le sujet qu'on va écouter, ça parle de « Sans préavis », un texte de 4 pages qui a été publié très récemment et qu'ils ont mis en mots et en musique pour nous. Voilà, c'est parti.
Putain, que c'est beau quand ça pète !
7 mars, une quinzaine d'agents du port de Marseille, opposés à la réforme portuaire, ont bloqué le terminal croisière. Cagoulés, ils ont notamment placé des grues en travers de certains postes, empêchant l'accostage d'un navire de croisière. 2 jours plus tard, c'est le port de commerce de Toulon qui est bloqué par des dockers.
10 mars, une centaine d'agents portuaires bloquent les portes d'accès au bassin est du port de Marseille pour protester contre l'évacuation par les forces de l'ordre des salariés de l'UNM, Union Navale Marseille, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le matin même. L'université de Toulouse 2, le Mirail, est fermée à la suite de l'occupation des locaux administratifs par une centaine d'étudiants. Même scénario à l'université Montpellier 3, 2 jours plus tard.
17 mars, Rognonas, sabotage contre un boîtier téléphonique Free et 9 CGTEL, groupe SFR. À Marseille, violents incidents au siège du Grand Port entre des salariés de l'UNM, dernier chantier naval de réparation de la ville placé en liquidation judiciaire, et des responsables du port. Portes enfoncées, tableaux arrachés des murs, fumigènes dans les couloirs, meubles renversés, portes vitrées brisées. Ils ont jeté des caisses de sardines et d'oursins au visage du directeur général adjoint, dont les lunettes ont été cassées, a précisé un porte-parole du GPMM.
Mars. À Marseille, un incendie détruit 200 tonnes de papier aux papeteries Étienne au lendemain de l'annonce de mesures de chômage technique par le directeur. 4 jours plus tôt, le scénario est quasi identique à l'usine Tambec, Tarascon. 10 000 tonnes de bois partent en fumée peu après la fermeture du site pour cause de chômage technique.
9 avril, des salariés de l'établissement de Brière-les-Scellés de l'équipementier automobile Forestia ont retenu 3 cadres dirigeants de leur entreprise pour protester contre les modalités financières du plan social annoncé en décembre. Le même jour, nouvelle coupure sauvage de gaz et d'électricité à Paris, Toulouse, Montpellier, Lille, dans le cadre d'une journée d'action chez GDF Suez. Plusieurs communes de moyenne importance ont été intégralement plongées dans le noir, ainsi que des zones commerciales dont un carrefour et des sous-préfectures. Plusieurs sites d'EDF et de GDF sont occupés depuis une quinzaine de jours en Midi-Pyrénées. À Marseille, une partie du deuxième étage du bâtiment principal de la fac Saint-Charles a été saccagée, dont le local de l'UNEF.
Quand les actions s'effondrèrent, laissant la moitié de la population au chômage, des hordes de manifestants affamés envahirent les rues en pillant tout sur leur passage.
On peut lire toutes ces brèves dans un 4 pages intitulé « Sans préavis ». Elles sont extraites d'une chronologie non exhaustive, mais bien plus complète des désordres en cours dans les usines, les facs, etc. On y trouve également une chronique de la lutte des ouvriers de Caterpillar à Grenoble, un récit des manifs syndicales à Saint-Nazaire et un texte Guadeloupe partout, Grèce générale, sur les manifs qui ont joyeusement dégénéré un peu partout. Bref, la tension monte. Extrait.
La tension monte.
Ça fait même la une des journaux. Les séquestrations se multiplient. La chasse aux patrons est ouverte. Les responsables politiques se demandent si tout cela est bien raisonnable et glosent sur ce qui est acceptable ou non, en temps de crise.
La crise, c'est-à-dire une reconfiguration des hostilités. Une occasion pour délocaliser encore plus, fermer les boîtes les moins rentables, renforcer le contrôle des chômeurs et rendre la main-d'œuvre toujours plus flexible, par le biais du RSA ou du dispositif des offres d'emploi raisonnables. Mais parler de crise, c'est aussi désigner une situation ouverte, un temps où des choses sont à gagner, des coûts à rendre. L'occasion, pour les éternels perdants de la guerre économique, de renouer un peu avec des tactiques offensives. Reprendre la main sur nos propres vies et nous constituer en menace pour l'ordre des choses.
En Guadeloupe, le mouvement contre la profitation a bien démarré pour des histoires de coups de la vie, pour réclamer des mesures anti-crise. Mais il a fini par tout emporter et mettre en cause directement le genre de vie qu'on nous fait, entre contrôle, exploitation et racisme institué. Les révoltés de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion se sont donné les moyens à la hauteur de la situation. Blocage économique massif, avec piquets volants et des barrages devenus peu à peu lieux de vie. Émeutes et affrontements parfois armés contre les policiers et les gendarmes débarqués par milliers de la métropole. Forme de grève marchande qui crée des situations politiques sous forme de discussions et de décisions collectives dans chaque boîte visitée. Et où tout le monde parle, même les patrons. La grève générale a vidé partiellement les supermarchés, mais elle n'a pas occasionné de pénurie complète. Au contraire, ça a amené de nombreuses personnes à entrer directement en contact avec des paysans qui pouvaient alors esquiver les ponctions garantissant les marges de la grande distribution. Ce qui s'est esquissé dans ces rencontres, c'est une autonomie matérielle possible, via des processus de mise en commun à l'échelle de l'île.
Voilà ce qui a commencé à faire plier le gouvernement et une partie des patrons. Le mouvement ne s'est pas conformé aux codes et aux grammaires impuissantes des kermesses syndicales habituelles. Mobilisation, journée d'action, ultimatum de papier. Si les révoltés ont commencé à gagner aux Antilles, c'est parce qu'ils ont su inventer leur puissance propre, choisir leurs moyens de lutte et vivre réellement à travers eux. Dans ces temps tumultueux, on ne mange plus de la même manière, on ne se parle plus de la même manière, on se lit autrement. Un monde se constitue hors des rythmes forcés du travail ou de l'oisiveté résignée des galériens. Un monde qu'on sait défendre, s'il le faut, face à la police. L'ordre normal de la domination se décompose ainsi, ça et là, et recule chaque fois que de la politique devient réelle.
Mi-mars, à Marseille, lors d'une autoréduction, des clients renâclent jusqu'à ce qu'un des participants lâche. Mais ne vous en faites pas, on fait juste comme en Guadeloupe. Ah bon, d'accord. Ça semble emporter le morceau. La Guadeloupe, c'est le mot de passe, le point de ralliement. Car il y a bien quelque chose qui y a été gagné. Les pratiques de lutte deviennent désirables et circulent quand elles gagnent. Comme pour les séquestrations qui permettent d'arracher des indemnités inespérées, ou l'occupation de la Royal Bank of Scotland à Lyon, avec à la clé déblocage de crédit que les salariés d'une usine automobile étaient venus réclamer.
Faire comme en Guadeloupe, c'est-à-dire faire reculer le pouvoir, qu'il s'agisse du petit chef zélé ou du gouvernement. Parce qu'on est dans le réel, parce qu'on arrête de jouer le petit jeu des politiques, à attendre la prochaine élection, la prochaine négociation au sommet, la prochaine grande journée pour le pouvoir d'achat et l'emploi. Ça se joue ici, avec les moyens du bord. La production qu'on peut choisir de bazarder ou de garder sous le coude. Le cadre dirigeant à qui on peut dire ses quatre vérités et pendant 48 heures si nécessaire. Et tous les outils, tout le matos qu'on peut facilement transformer en barricades, en armes. La conflictualité est de fait de plus en plus clairement assumée. Un ouvrier de l'usine Amora occupé déclarait à ce propos « Qu'ils amènent les flics, on fera comme dans les banlieues, on appellera nos potes. » Et effectivement, des défilés syndicaux se terminent régulièrement en affrontements. On règle aussi des comptes avec les policiers. Le 30 mars à Bastia, un collégien est gravement atteint par un tir de flashball en pleine tête. 3 jours de coma. Une semaine plus tard, plusieurs centaines de manifestants venus dénoncer les violences policières attaquent les forces de l'ordre. 70 fonctionnaires seront contusionnés ou blessés.
Entre cafards et gyrophares, gendarmes et militaires. Entre cafards et gyrophares, entre cafards et gyrophares.
Lutter dans sa boîte, dans sa fac ou son quartier, c'est inverser localement les rapports de force, défaire point par point les positions dominantes. Quand on met la misère à l'équipe de direction qui franchit un piquet de grève, quand on fait reculer des contrôleurs dans un bus de banlieue. Les occupants d'usines ou de bahuts, les grèves sauvages permettent chaque fois de rompre avec la routine de l'exploitation et des humiliations quotidiennes. Et ces interruptions sont autant d'occasions pour se rencontrer, nouer des solidarités improbables. Comme à Caterpillar, où des ouvriers, des squatteurs, venus en voisins et des étudiants en lutte, se sont retrouvés sur les piquets, autour d'une cantine collective, et dans la rue, pour des actions de blocage.
Séquestration à répétition, sabotage, actes de révolte de toutes sortes. Des lieux de vie et de travail sont occupés, des barricades coupent sporadiquement la circulation dans les grandes villes. Mais il n'y a pas vraiment de mouvement social, avec ses formes, son déroulement codifié.
assez flagrant dans les facs. Le mouvement semble n'avoir ni début ni fin. L'enchaînement des blocages et déblocages d'une fac à l'autre, ou sur un même campus, laisse l'impression étrange que cette grève continuera à hanter le monde universitaire, bien au-delà de sa date de décès officielle, scellée par un recul du gouvernement ou un vote en AG.
Pas un mouvement social, mais un désordre diffus. Une effervescence peu contrôlable, avec ses embrassements disséminés. Ce qui relie les différents points de révolte reste largement virtuel. Le sentiment qu'il faudra bien que ça pète, que ça pourrait bien partir, que quelque chose arrive. Les grandes centrales syndicales tentent bien d'orchestrer un peu le bazar. Pour éviter l'emballement, elles en appellent à une journée d'action tous les deux mois. Mais ça craque de partout en attendant, et du côté des chômeurs, des lycéens, des dockers et tant d'autres, ça commence à déborder même dans les grandes manifestations. Échauffourées avec les forces de l'ordre, attaques à coups de pierre ou de peinture visant les banques, les locaux du MEDEF ou les boîtes d'intérim. Les négociations avec le gouvernement en deviennent presque caricaturales. En bon gestionnaire, la CGT et la CFDT viennent mettre dans la balance, contre quelques clopinettes, non pas leur pouvoir de mobilisation, mais bien plutôt leur capacité à neutraliser et canaliser la colère de la base. Parce qu'attention, bientôt on ne les tiendra plus.
Les syndicats responsables ont bien compris qu'ils ne maîtriseraient plus rien si les différentes luttes en cours se composaient et entraient en résonance. Comme une grande vague susceptible de mettre leur monde à l'envers. Pour construire des liens à la base, pratiquement, de foyer en foyer, il faudra faire sans eux. Sans les partenaires sociaux, sans les champions de la concertation et des échanges constructifs. C'est ce que cherche à réaliser aussi ce petit bulletin, contribuer à ces mises en rapport, à la circulation des affects de révolte et des tactiques de lutte. Faire entendre notre petite musique, loin des couplets touffés sur la crise ou des tristes rengaines du retour à la normale.
Pour en lire plus, Sans préavis est disponible entre autres sur Indie Média Nantes. Si nous nous délectons de l'inventivité dans la lutte des ouvriers de Caterpillar, nous n'oublions pas que cette boîte est une belle industrie de mort. Pas un chantier dont elle ne soit complice. Si nous nous réjouissons de tous ces désordres, de ce petit vent de folie qui semble s'emparer d'un nombre croissant de gens, nous ne pleurerons pas sur la fermeture de toutes ces foutues usines dans les secteurs de l'automobile, du BTP, des hautes technologies, etc. S'il y a des exploiteurs, c'est qu'il y a des exploités. Cessons de collaborer à notre exploitation. L'accumulation du capital par les patrons ne peut pas se faire sans la participation active des travailleurs. Il n'y a plus de travail, tant mieux, la fac est en crise, qu'elle crève. Faisons autre chose de nos vies, hâtons la destruction de ce vieux monde de merde.
Et n'oubliez pas que vous pouvez quitter votre boulot.
Non, c'est vrai ?
Yo, voilà, alors c'était la lecture d'un texte qui s'appelle « Sans préavis », qui est trouvable sur internet et téléchargeable si vous avez envie de le diffuser et le faire tourner autour de vous. C'était un extrait de l'émission « Basse intensité », l'émission marseillaise, qui est diffusée une fois par mois sur Radio Galère. Moi, je vous invite largement à aller voir le site de Basse Intensité où toutes les émissions sont téléchargeables, ainsi que toutes les brochures sur lesquelles ils s'appuient pour réaliser les émissions. Et voilà, voilou.
Now,
Vamos fugir dessa divisa pagã, o governo vai dizer, não vai se preocupar.
Vamos fugir dessa divisa pagã, o governo vai dizer, não vai se preocupar.
Vamos na fana, pra essa divisa pagã, o governo vai dizer, não vai se preocupar.
Vamos fugir dessa divisa pagã.
Voilà, on continue cette émission numéro 0. Maintenant, du coup, émission numéro 0 spéciale avec spéciale et émission de radio d'ailleurs que vous pouvez pas écouter et tout ça qu'on a du coup grand plaisir à vous présenter. On va vous présenter maintenant cette dynamique qui s'appelle le Club Radio, qui est une dynamique dijonnaise et avoisinante. Voilà, alors le Club Radio, c'est en gros une bande de potes qui se réunissent de temps en temps pour aller rencontrer des gens dans les manifs et laisser un petit peu des traces de lutte, un petit peu. Ils se diffusent que sur Internet. Alors, comment ils opèrent ? En gros, ils vont dans les endroits qui leur plaisent, avec leur post-cassette et un micro. Ils branchent un petit peu à tout va, tout ce qui bouge, et puis après, rentrent chez eux. Et avec Audacity, le logiciel libre, ils montent leurs petites interviews, en essayant d'en faire un petit montage sympathique qui ressemble à quelque chose d'audible, pour essayer d'illustrer un petit peu une situation et en faire parler. Jusqu'à maintenant, ils ont fait un truc sur une manif des ducs, un truc sur les tanneries, un truc sur une manif anti-IVG et deux, trois autres trucs. Là, le truc qu'on a choisi de passer, enfin le montage qu'on a choisi de passer, c'est un truc, c'est un micro-trottoir qui revient sur... tout le mouvement de grève dans les usines Amora. Et qui a été réalisé du coup en décembre dernier lors d'une manif. Alors pour resituer un petit peu, en novembre 2008, la direction de la multinationale Unilever, dont fait partie Amora, a annoncé la fermeture de deux sites de production et du centre de logistique de l'entreprise à Dijon. C'était en tout 296 suppressions d'emplois qui étaient programmées, 184 à l'usine de Dijon, 77 à celle de la Poigny et 35 au centre de logistique Unilever. Que dire, si ce n'est que du coup à la suite de cette annonce-là, en décembre, une manifestation est organisée par les salariés, une manifestation qui va rassembler en gros 3000 personnes. Et voilà, peut-être un mot à rajouter, Stéphane ?
Oui, le ce qui était intéressant dans les usines Amora à Dijon, que c'était une des premières et où le blocage était vraiment réel, c'est-à-dire que les usines n'avaient pas un piquet de grève filtrant. Là, c'était un piquet de grève qui bloquait tout vraiment. L'usine était bloquée complètement pendant plusieurs jours.
Ouais, parce que alors du coup, ce que j'avais pas dit, c'est que à la suite de ça, du coup, on était en décembre. Après, va s'en suivre une autre manif. Et en mars, en gros, la lutte va se durcir et notamment un dépôt à Chevigny, à côté de Dijon, va être occupé. C'est ça dont tu parles, du coup, Stéphane. Et à la suite de ça, du coup, en fin mars, va y avoir des négociations et les ouvriers ils vont obtenir des indemnités chômage et licenciement blablabla blablabla de 60 000 à 100 000 euros suivant les cas. Et voilà, ah oui, à noter que quand même dans les actions qui ont été faites par les ouvriers des usines Amora aussi, j'ai lu ça sur internet, qu'ils étaient descendus dans un carrefour et qu'ils avaient vidé tous les rayons de tous les produits Amora. Je trouvais ça assez rigolo.
Ouais, il faudrait faire pareil avec Nestlé, etc.
Voilà, voilà, donc écoutons ce petit montage du Club Radio.
Voilà, ne dénature pas ce que j'ai dit et puis fais un bon montage, voilà.
Le groupe numéro 1 du condiment français avant l'acquisition par le groupe Univers en 2000. La prise de contrôle par ce groupe a permis le démantèlement programmé de l'entreprise avec la rémunération des actionnaires.
On n'est pas content parce qu'on ferme notre site, on ferme le grand site Amoramaï à Dijon et ben voilà, le mécontentement, il est, on perd nos emplois, on perd nos salaires, on perd toute une économie qui va s'écrouler autour d'Amora, sur Dijon et...
Je m'appelle Marie-Aude, j'aime pas la moutarde mais j'aime bien la mayonnaise.
Plus dans les circonstances actuelles de la crise qui se produit, se retrouvant sans boulot et sans revenu. Il semblerait comme qu'ils aient récupéré les brevets, le trust en rachetant Maï à Morin, ont récupéré les brevets de fabrication de la moutarde pour pouvoir faire fabriquer ailleurs cette excellente moutarde de Dijon, à la réputation que l'on connaît. Mais enfin, le problème n'est pas uniquement là d'ailleurs, pas seulement régional. Mais une fois qu'ils ont récupéré ça, eh bien, leur objectif, c'est le profit, c'est pas le bien-être des travailleurs, parce qu'ils pourraient se contenter de bénéfices un peu moindres en continuant de fabriquer cette moutarde qui se vendait bien, l'entreprise n'était pas en déficit. Donc il n'y avait aucune raison de la fermer si c'était pour augmenter les profits.
C'est des fumiers.
Ce sont 287 suppressions d'emplois qui sont programmées par le groupe. À Dijon, c'est 185 emplois. À Poigny, c'est 76 emplois. Et au centre logistique, c'est 35 emplois. Sans oublier nombre de sous-traitants qui risquent de faire aussi leur emploi.
C'est des fumiers.
Ce groupe a enregistré au troisième trimestre 2008 un gain de 1,063 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires du Unilever est en hausse de 2% à 10,427 milliards d'euros pour les 9 premiers mois de l'année et l'entreprise annonce déjà, avant l'impôt, un bénéfice en hausse de 83% à 2,5 milliards d'euros.
C'est des fumiers.
Vu la situation géographique de l'usine de Dijon et du R&D, nous pensons que le groupe veut aussi en profiter pour faire une opération de spéculation immobilière.
C'est pour mon papa que je fais ça. Et c'est un peu toute la vie de mon père, donc voilà quoi. On ne voudrait pas que ça ferme.
Et en fait, j'ai 25 ans d'ancienneté, on était bien installés. On faisait gagner de l'argent à Unilever et à Montramay.
Non, je n'étais pas à la manifestation, mais oui, pourquoi pas y aller ? Qui délocalise tous les jours, s'ils s'amusaient à sauver toutes les entreprises.
Unilever a décidé de nous voler ! Unilever a décidé de nous voler ! Ce qui est le plus important à nos yeux. La France, la France, la France,
nous avons été achetés en l'an 2000 environ et en l'espace de 8 ans, ils ont divisé notre production par deux et là, ils veulent nous rayer de la carte, tout simplement.
C'est des fumiers.
Deux questions pour nous d'accompagner un plan social. Nous sommes ici pour le maintien de nos sites, le maintien des emplois et le développement également de nos sites.
Ça ne sert à rien, enfin, c'est déjà décidé, donc la manifestation, elle sert... Enfin... Si, ça a une utilité parce qu'on voit que les gens sont encore présents et qu'ils ont envie de se battre, mais sinon, les décisions sont déjà prises au plus haut et finalement, on s'en fout complètement des gens qui manifestent.
D'accord.
Il y a toujours un lendemain, il y a toujours une suite. À quand la fin, il y a toujours une limite. Il y a toujours un lendemain, toujours une suite. À quand la fin, toujours une limite. Il y a toujours un lendemain, il y a toujours une suite. À quand la fin, il y a toujours une limite. Il y a toujours un lendemain, toujours une suite. À quand la fin. On changera pas le monde des larmes sous les yeux. passe-nous des armes à feu. C'est un peu comme si c'était fait. J'emmène la crasse de mon flow où je veux. En vrai, d'où nous vient ce regard sur la vie? À votre avis, venez voir par ici. Ces paroles sont pour vous. Gentil ou pire des tarbas, on rentre pas dans ce débat. La rumeur n'a pas à s'interdire ce que les autres n'ont plus les couilles de dire. On refuse pas de grandir, tout le contraire de la norme. Si tu ignores qui nous sommes.
Je suis extrait de l'épaisseur du soir, avant d'échouer sur cette boucle sans phare. Que surveille encore une poignée de clébards. Je suis l'otage noir des spasmes du pouvoir. Et je ferai entre la rose et le fumier, où les oppresseurs sont faits pour leur parler de près. Allons au-devant des flammes, ce qui en sortira ne sera pas du stand-up ou du slam. Mon Dieu, veuillez ne surtout pas leur pardonner, ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Voici une fenêtre ouverte sur des séquences que l'on nomme. Y'a quelque chose de pourri dans le royaume.
Y'a toujours un lendemain, y'a toujours une suite. À quand la fin, y'a toujours une limite. Y'a toujours un lendemain, toujours une suite. À quand la fin, toujours une limite. Y'a toujours un lendemain, y'a toujours une suite. À quand la fin, y'a toujours une limite. Y'a toujours un lendemain, toujours une suite. À quand la fin.
Aussi sérieux qu'une menace de mort. Putain, c'est la rumeur au-dessus de tout remords. Quand il s'agit de mordre à la gorge de l'ordre, sapin et chrysanthème parfument le storyboard. Puisqu'il n'y a plus rien à comprendre au scénario, seulement des comptes à rendre. À trop nous prendre pour des narvalos, faut plus nous parler de silence. On a les réponses à la mesure de l'offense.
L'oreille collée au sol, à écouter le cœur battre. Les veines charriant, ce qui énerve jusqu'à craque. Des mains pleines, à vide d'espace, moins confiné. Claustrophobie héritée, activité trop agitée. À se faire démonter ou se faire taire. Poignée liée en l'air, un doigt sur la jugulaire. Commande ferme, choc thermique à la tempe. Les dents pétées par un flic loin des feux de la rampe.
Y'a toujours un lendemain, y'a toujours une suite. À quand la fin, y'a toujours une limite. Y'a toujours un lendemain, toujours une suite. À quand la fin, toujours une limite. Y'a toujours un lendemain, y'a toujours une suite. À quand la fin, y'a toujours une limite. Y'a toujours un lendemain, toujours une suite. À quand la fin.
Yo, voilivoilou, c'était un petit montage du Club Radio, la radio Alger, Beaune, Dijon, Moscou. Vous pourrez retrouver le Club Radio sur Internet, alors leur adresse c'est yopen.fr/clubradio. Voilà, vous pouvez retrouver du coup tous leurs montages qui sont accessibles en téléchargement, en .ogg et en .mp3. À noter quand même le petit point rigolo quand même, c'est que toutes ces émissions et ces montages sont réalisés quand même au poste à cassette, et je tiens à le souligner, dans ces terres où on passe facilement au tout numérique. Voili voilou, je pense que vous l'aviez capté, dans cette logique de cette émission, de passer plein d'émissions de radio, on voulait insister un petit peu sur que ce vent de convergence des luttes qu'il y a un petit peu dernièrement, et qu'il y a plein de choses qui se passent de partout, et qu'on peut les mettre en relation, que les gens y communiquent entre eux, que c'est bien de les mettre en lien, que c'est bien d'aller rencontrer aussi les gens qui bougent ailleurs, et que de toute façon, quoi qu'il arrive, ça se passe, alors que le gouvernement n'a qu'à bien se tenir. Yo! Voilà, passons maintenant à la traditionnelle petite rubrique de fin d'agenda. Donc, pour commencer, alors, ce week-end,
samedi 6 juin à la Dérive, le local de la CNT, donc 31 rue Basse Dérive. Il y aura une soirée de soutien au collectif des sans-papiers, donc un collectif de soutien aux sans-papiers, avec au programme une bouffe prix libre qui vous proposera des spécialités africaines. Il y aura aussi une projection de film qui parle de la lutte des travailleurs sans-papiers dans les années 70, les travailleurs maghrébins et tout ça, donc jusqu'au bout, et grève des ouvriers de l'entreprise Margoline. Et puis il y aura aussi un concert d'Azanga Mutu, donc l'homme sans tête, ça veut dire, c'est qui nous fera de la musique tradie moderne du Bas-Congo. Voilà, et puis enfin il y aura une boom avec des DJ. Voilà, donc samedi 6 juin 18h à la Dérive, 31 rue Basse Dérive.
Yo, moi de mon côté, je voulais annoncer que l'université solidaire continuait malgré tout, que notamment mardi prochain à 18h30 à Tréfilerie, ils organisent un moment retour sur l'élection honteuse présidentielle algérienne. Voili voilou. Dans le même coup, ils projettent aussi un film qui s'appelle Kemada à 21h30, toujours à Tréfilerie. Je voulais aussi, du coup, puisqu'on en est à parler d'Algérie, je vous conseille vivement d'aller voir, si vous êtes intéressé un petit peu par le sujet, un petit peu de ce qui se passe en Algérie, aller voir cette brochure qu'on trouve sur le net qui s'appelle Un bref aperçu sur de bien vives flammes algériennes. Voili voilou. Après, sinon, qu'est-ce qu'ils font ? Le mercredi 10 juin, ils organisent un truc, une intervention, les théories du complot et les analyses sociales et politiques, qui sera intervention menée par Daniel Colson. C'est toujours à Tréfilerie, c'est à l'amphi J-Juin. Ils organisent un truc le jeudi 11 juin sur la Palestine. Et voilà, c'est à 18h30 avec une projection d'un film qui s'appelle Un mur à Jérusalem. Et voili voilou. Je vous invite pour le reste à aller voir sur le site du JM en lutte où ils donnent les infos de ce qui se passe et de le programme de l'Université solidaire. À noter, je crois que quand même les étudiants et étudiantes et professeurs et professeuses de la fac sont toujours en grève. Voilà.
Et dernière petite annonce vite faite pour la semaine, pour un appel relayé, un appel de deux semaines de solidarité internationale avec toutes les inculpées de la guerre sociale qui aura lieu du 15 au 28 juin. Alors ça se passe dans un contexte où de plus en plus de personnes sont enfermées et inculpées sous prétexte d'associations à but terroriste. Le dernier exemple en date, par exemple, étant les trois personnes de Chambéry incarcérées sous prétexte d'une explosion accidentelle d'un engin artisanal dans une friche industrielle. Voilà, alors deux semaines de solidarité internationale, chacun à sa manière y apporte ce qu'il a, alors il veut, sous forme de manifs, sous forme d'occupation, de blocage, de sabotage, de tags ou de banderoles, de feux d'artifice et de fumigènes, du 15 au 28 juin. Le contact, si vous avez des choses à leur dire, solide, solid, at riseup.net, riseup.net, voilà.
Yo, alors n'hésitez pas à faire des petits graffitis, à étendre une banderole sur votre fenêtre ou à organiser un rassemblement dans votre ville ou votre quartier. Voili voilou, du coup, là, l'émission touche à sa fin. On se retrouve quand déjà ? Le 25 juin, c'est-à-dire dans 3 semaines, pour une émission spéciale RSA,
réflicage
du Pôle emploi et tout ça et tout ça.
Voilà.
Voili voilou, et d'ici là, prenez soin de vous.
Et amusez-vous bien.
Amusez-vous bien, surtout.
N'oubliez pas de tout casser.
Yo.
À tous les travailleurs et travailleuses exploités, aux intérimaires, à tous ceux et celles qui ont des contrats pourris, à ceux qui n'ont rien, aux chômeurs heureux, RMI, radiés, sans revenus de tous bords, aux étudiants, étudiantes, lycéens, lycéennes et tous les autres chômeurs en devenir, aux jeunes des quartiers populaires promis à des boulots de chiens, aux enfants d'ouvriers promis à l'exploitation de l'usine ou aux boulots payés aux lance-pierres toute leur vie, aux feignants et feignantes, aux insoumises et insoumis, et à toutes ceux et celles qui préfèrent tenter l'aventure plutôt que l'oppression. Assez des boulots de mort, assez du flicage du pôle emploi, assez du travail, assez de s'abaisser devant les patrons et le système qui vivent sur notre dos, qu'ils se torchent le cul tous avec leurs contrats pourris et leurs salaires de merde. Nous avons compris que l'économie tue, l'économie c'est la crise, et inversement. Rapidement ou lentement, l'obsession de la croissance broie les salariés, les chômeurs heureuses, les RMIs, en bref, tous les pauvres, leurs familles incluses. Le chômage est organisé et utilisé par les grands patrons et l'État. Le rôle des ANPE, ACEDIC, UNEDIC et du conseil régional est de tenir une masse de salariés précaires à la disposition du grand patronat. C'est donc main dans la main que grands patrons et État organisent notre misère pour faire leur fortune. Les caisses de l'État débordent de centaines de milliards d'euros. Les coffres des patrons sont pleins à craquer, il n'y a qu'à se servir. Et tant qu'on y est, on n'a qu'à supprimer les pôles emploi, les salaires des capots des MEDEF, les dépenses de fichage et autres techniques de flic, et puis arrêter toutes les subventions aux entreprises, associations sans suite qui vivent sur le dos des chômeurs. C'est pas les solutions qui manquent pour trouver du fric. Ce qu'il manque, c'est la peur au ventre des puissants pour qu'ils le crachent. Alors patron, tu vas le cracher le fric ? Nous sommes des hommes et des femmes, et non pas des larves comme les puissants voudraient nous y contraindre. Ne pas travailler et faire de la vie une fête est un droit exigible sans condition. Il existe une vie en dehors du salariat. D'ailleurs, 5 millions de personnes en France l'expérimentent tous les jours. Nous exigeons que soit versé à tous les chômeurs heureuses et RMIs, à tous ceux et celles qui ne bénéficient d'aucun revenu, à tous les retraités aux allocations misérables et les sans-papiers vivant en France, un revenu minimum de 800 euros par mois sans condition. Alors patron, tu vas le cracher le fric ? Dans cette lutte, sereine et déterminée contre l'État, les grands patrons et leurs capots, dans laquelle nous n'avons rien à perdre et tout à gagner, nous décidons de bloquer les flux de travailleurs pauvres que le pôle emploi destine aux forces des grands patrons, en perturbant l'activité des pôles emploi et des organismes rattachés à cette merde immonde. De refuser les boulots de mort et les emplois de chiens, nos parents ont assez donné. De rire au nez des flics du pôle emploi quand ils nous parlent comme à des demeurés. De prendre un fou rire quand on reçoit leur courrier inflammant. Procédure de radiation, radiation sinon réponse de votre part, rappel à l'ordre. De poursuivre la lutte et prendre notre pied à cracher au capot du MEDEF qu'on veut pas de leur contrat de merde payé des miettes. On sera jamais vos esclaves. Nous vous promettons de nettoyer les litières avec les contrats d'insertion imposés par les esclavagistes du département. Nous décidons de systématiquement foutre en l'air les stages de CV et de lettres de motivation qui ne servent à rien si ce n'est qu'aux entreprises et associations qui les prescrivent et qui vivent sur le dos des chômeurs au crochet des subventions publiques. Nous nous engageons à défendre collectivement les dossiers individuels, ainsi qu'à voler sans pitié tous ceux et celles qui font appel à la masse salariale bon marché que lui fournit le pôle emploi et tous ceux et celles qui profitent des chômeurs pour faire leur blé sur leur dos. La commune des bons à rien vous invite à faire de même.